Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec Gilbert David. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la Ligue protectrice des oiseaux de la Drôme.
Oui, je suis président de la Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité. Et j'y tiens parce qu'il n'y a pas que les oiseaux, nous on s'occupe aussi de toute la faune et de ses milieux.
Vous êtes ici pour un sujet qui a été préoccupant ces derniers jours et même plus longuement autour des rapaces tout simplement. Et dû à cette découverte d'un vautour percnoptère qui a été retrouvé blessé et plombé.
Alors, je voudrais amener juste une précision, c'est que on n'a pas, juste là, je viens de l'avoir il y a une heure, on n'a pas retrouvé de plomb dans ce rapace. Il a été blessé, on ne sait pas comment, mais on n'a pas retrouvé de plomb. Donc, on ne peut pas incriminer un braconnage, quoi, en fait. Donc, pour l'instant, on en est là. Il y a d'autres études qui sont en train de se faire parce qu'il est blessé simplement, heureusement, mais il est en très mauvais état et il est dans un centre de l'ALPO PACA, en centre de soins. Mais la première radio, le vétérinaire qui l'a faite n'était pas très habitué et il avait vu des petits points. Il croyait que c'était des plombs. En fait, ça n'en était pas là, après. Donc là, aujourd'hui, on a pu refaire des études, des relevés. Et voilà, donc il y a eu un petit quiproquo. Il y en a qui se sont enflammés un peu vite. C'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux chasseurs, mais sur ce coup-là, a priori, il n'y serait pas pour quelque chose. Par contre, il y a quelques années, il y a un gypaète qu'on a retrouvé mort. Et qui avait déjà eu des plombs nécrosés, c'est-à-dire qu'il avait déjà été plombé une première fois, il en est réchappé, et la deuxième fois, il a reçu d'autres plombs, et là, il en est mort. Voilà, et ça, c'était vraiment du braconnage, quoi.
Alors, mis à part le problème de la chasse, ces accidents, on peut aussi parler d'un grand danger pour eux, ce sont les éoliennes.
Alors, voilà, c'est... Pour bien poser les choses, l'ALPO n'est pas du tout opposé à l'installation d'éoliennes. D'ailleurs, on travaille avec certains installateurs, que ce soit dans la vallée du Rhône, plus au sud, ou même près de Romans. Les éoliennes font des dégâts, ça c'est une évidence. Simplement par la rotation des palmes qui peuvent aller très vite, en fait, jusqu'à 200 km/h, je crois. Je ne suis pas un spécialiste. Mais ça fait quand même de la mortalité. Mais il y a des endroits où l'ALPO ne peut pas accepter de la présence de ces éoliennes, simplement dans les cols de migration. D'ailleurs, c'est un des critères où on ne transigerait pas, quoi. Et du coup, le col de la Bataille, par exemple, dimanche dernier, nous avons fait une manifestation avec d'autres associations, comme Mille Traces, Vercors Nature et tout ça. Et donc, on a pu réunir pas mal de monde pour cette manifestation contre les éoliennes du col de la Bataille, je précise bien.
Alors, le col de la Bataille étant quand même signalé comme zone protégée, comment se fait-il que des personnes puissent décider, malgré tout, d'avoir ce type de projet ?
Alors, c'est dans l'enceinte du parc naturel régional du Vercors, mais le parc n'est pas une zone protégée au sens strict du terme, quoi. Il y a des activités humaines, il y a des villes, il y a les activités humaines qui se développent, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a quand même une connotation un peu espace naturel aussi. Et c'est vrai que dans ce sens-là, c'est un peu difficile de comprendre qu'on puisse installer des éoliennes dans des cols de migration, dans ces endroits très fréquentés par surtout les hirondelles et les passereaux qui sont une voie de migration, mais aussi avec beaucoup d'espèces de chauves-souris. Et je voudrais y revenir peut-être un peu plus tard, ou Thomas pourra peut-être en parler tout à l'heure. C'est un gros problème avec les éoliennes et les chauves-souris.
Oui, parce que les éoliennes produisent énormément de dégâts, hein, sur la faune aviaire. Vous disiez ne pas être forcément contre la pose d'éoliennes, mais alors, est-ce que vous avez des réflexions sur comment épargner aux oiseaux ce type d'écueil ?
Il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Nous, on fait simplement des relevés de mortalité au pied des éoliennes. Hein, et on en trouve, hélas, beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est moins important que d'autres. Quoi. Enfin, il y a des mortalités on va pas dire supportables parce que ce serait dommage. Mais enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir des endroits qui posent moins de problèmes que d'autres. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ça en pose toujours. Hein. Alors, il y a d'autres. On m'a dit, enfin moi je suis, comme je vous dis, hein, je suis pas un spécialiste de l'éolienne, mais on m'a dit qu'il y avait des pales qui pourraient tourner horizontalement au lieu de verticalement, ça ferait autant d'électricité et moins de dégâts sur la faune en tout cas, mais pour l'instant ils font que des pales qui tournent dans le sens vertical, donc le rotor est horizontal. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà, donc ça, c'est ces éoliennes, c'est celles qui font le plus de dégâts, quoi.
Alors, la LPO s'est ouverte aussi sur la biodiversité. Donc, quelles sont les dernières avancées que vous avez faites dans ce domaine ?
Alors, dans le domaine de
la diversité.
Ah, de la diversité, d'accord. Oui. En fait, depuis maintenant 45 ans, la LPO est assez récente, mais avant il y avait le CORA, Centre Ornithologique Rhône-Alpes, et même avant il y avait, on a changé de nom, mais on a toujours eu les mêmes objectifs, hein. Simplement on s'est regroupé pour être plus fort en fait, si vous voulez, plus audible, si on peut dire, au point de vue des partenaires. On a démarré en 1975 en créant un groupe. Alors, c'était un groupe de copains au départ qui s'appelait le GEDERV, groupe drômois d'études et de recherche sur les vertébrés. C'est pour ça que je dis qu'on ne s'occupe pas que des oiseaux. Hein. Et puis après, on est devenu du CORA, Centre Ornithologique Rhône-Alpes. Donc on s'est mis du local, on est allé s'allier avec les autres départements de la région Rhône-Alpes à l'époque, donc CORA, Centre Ornithologique Rhône-Alpes. Et maintenant, on s'est rapproché du national avec la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux et de la biodiversité. Voilà, c'était juste pour un petit résumé rapide de notre association. Et depuis donc ce 1975, on a fait quand même pas mal de choses, puisque au départ, on ne dit pas que c'est tout nous qui avons fait, hein, mais on y a participé en tout cas activement. On avait en 75, dans le Diois par exemple, il n'y avait pas un héron, pas de castor, pas de loutre, il n'y en a toujours pas, mais enfin elle va venir, j'espère. Les chamois ont pratiquement disparu. Le bouquetin n'existait pas, enfin il a été réintroduit bien plus tard. Voilà, donc nous on a participé surtout à des inventaires pour suivre un peu l'évolution des populations des espèces sauvages. On a beaucoup fait de comptage de chamois par exemple, sur tout le Diois et un peu plus loin, même dans les monts du Matin. Ensuite, on s'occupe s'occupait de faire des relevés de tétralyre, où il est en train de disparaître. Là, c'est une espèce qui est en train de complètement disparaître, mais elle est toujours chassée, ce qui est un peu dommage.
C'est dû à quoi ? C'est dû à quoi, sa disparition ? Uniquement la chasse ?
Non, c'est pas du tout, pas que la chasse, mais ça en fait partie aussi. Mais c'est vrai que les changements de l'élevage, des transhumants, de petits troupeaux qui étaient sur les hauts plateaux, maintenant on passe à des milliers de troupeaux, enfin des milliers de bêtes dans un troupeau, et ça fait un peu la tondeuse à gazon. On essaye d'avoir des zones où en défense, qu'on appelle, où on peut laisser des coins libres pour que les tétras qui nichent au sol puissent se reproduire, mais c'est pas toujours évident, quoi. Voilà, donc ça c'est. Mais on a participé aussi à la réintroduction de la marmotte au bouquetin avec le parc, avec le JPAET aussi, on fait les suivis. Voilà, donc on essaye d'être un peu présent dans toutes les autres. Et surtout, on a fait depuis une bonne vingtaine d'années le suivi temporel des oiseaux communs, c'est-à-dire qu'on fait des comptages sur des zones bien définies. Et c'est avec ces comptages-là qu'on envoie au Muséum d'histoire naturelle qui recueille toutes nos observations. Et en fait, c'est comme ça qu'on sait que les hirondelles ont baissé de plus de moitié, leur nombre d'hirondelles a baissé de plus de moitié, que la faune aviaire est en régression, quoi. Voilà, ça c'est grâce à nos comptages.
Voilà, et ça concerne la Drôme principalement.
Alors, ce suivi stock dont je viens de parler, là, c'est dans toute la France et même dans toute l'Europe, quoi. On fait des comptages aussi de canards, en fait, d'oiseaux d'eau. Tous les mois de janvier, le premier dimanche le plus près du 15. Et là, c'est les hivernants, donc et on le fait ça depuis très très longtemps aussi. Voilà.
Il y a des affirmations comme quoi les oiseaux ont disparu d'au moins 30% en France. Est-ce que vous pouvez expliquer ce fait ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que c'est irrémédiable ?
Enfin, c'est surtout les passereaux qui trinquent. Les passereaux, il faut savoir que c'est à peu près les trois quarts de la faune aviaire, enfin des oiseaux, quoi, en fait, des espèces d'oiseaux. Ils représentent à peu près les trois quarts. Et donc, sur ces passereaux-là, on a une diminution très importante de 30 à 40%. Et donc, pour les hirondelles, ça dépasse les 50%, quoi. Et ça, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs facteurs qui font que cette disparition. Bon, il y a évidemment tous les granivores, donc tous ceux qui ont un bec un peu fort, là, les gros becs, les moineaux, les pinsons, là, tout ça. Ils mangent des graines normalement. Si ces graines sont empoisonnées par des pesticides qu'on met dans les champs, évidemment, ils meurent, quoi. Donc, en plus, les grandes plaines céréalières du nord de la France, enfin du centre de la France, je sais pas, ça, il y a qu'une seule espèce, évidemment, pour de blé, par exemple, ou de maïs. Et la diversité n'étant pas là, les oiseaux, à un moment donné de l'année, meurent parce qu'ils n'ont pas à manger, quoi. Et les insectivores, donc ceux qui ont un petit bec fin, comme les mésanges, les grimperoules et tout ça, si on met des pesticides, évidemment, c'est pour tuer des insectes. Et ceux qui mangent des insectes, ils en ont moins ou plus du tout. Et c'est comme ça qu'ils diminuent. Donc, en fait, c'est surtout lié à l'agriculture, plus que la chasse, d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu. Il faut qu'on travaille avec les agriculteurs pour qu'il y ait moins de pesticides dans les champs, dans les céréales, dans les prés, pour qu'il y ait plus d'oiseaux. Voilà.
Qu'exprimez-vous face à la décision du gouvernement de maintenir quand même encore l'utilisation du glyphosate?
C'est un très très gros problème pour la biodiversité dans la nature, c'est sûr, parce que c'est pas du tout un produit qui est dirigé sur une seule plante ou un truc comme ça. Ça se disperse, c'est assez difficile à conjuguer. Donc c'est vrai que pour nous, c'est plus long, l'utilisation du glyphosate sera moins, ça sera bon pour la biodiversité. Donc c'est vrai que pour nous, plus vite il sera interdit, mieux ça sera pour nous. Bien qu'il faut faire attention parce que je fais confiance aux producteurs de pesticides, ils en trouveront d'autres pour détourner la loi, quoi. Voilà, donc. Et c'est vrai que c'est un gros problème pour aussi parce que ça c'est la monoculture en fait qui est un problème aussi. Il y a le pesticide et puis après donc c'est spécifique sur une seule espèce et voilà donc après c'est compliqué de d'arriver à nourrir nourrir entre guillemets que les oiseaux se nourrissent naturellement dans des champs très étendus, quoi.
Par rapport au glyphosate, est-ce qu'on peut estimer ce qui a été en pourcentage animal ou même de la flore, les dégradations constatées?
Ça a dû peut-être être calculé, mais je ne connais pas exactement les retombées. Mais toutes les études qui ont été menées en dehors des études faites par Monsanto, Bayer ou autre, c'est toujours été ça a toujours été très néfaste à la faune sauvage, quoi, en tout cas. Et pour les abeilles aussi, c'est sûr que les abeilles sont en train de disparaître à cause de ces pesticides. Tout confondu, parce que c'est un cocktail de pesticides multiplié je ne sais plus combien, par 10, par 100, par 1000, les effets sur les abeilles, quoi. Et évidemment, si les abeilles meurent, les autres insectes meurent aussi, et tous les pollinisateurs vont fortement diminuer, voire disparaître à terme, quoi, si on continue comme ça, quoi. Il faut essayer de voir plus loin que le rendement immédiat et le rendement à court terme, quoi, évidemment.
Est-ce que malgré tout toutes ces mauvaises nouvelles, est-ce que vous ressentez quand même un optimisme ou dans l'avenir?
Ben, j'ai beaucoup d'espoir dans le bio, c'est sûr qu'il faut que faciliter, promouvoir l'agriculture biologique, au moins biologique, voire biodynamie, et c'est vrai que ça, ce sera l'avenir. Je pense qu'on sera obligé d'y venir là, parce que les terres qui sont complètement stériles, dues à ces monocultures, à ces pesticides, à ces engrais, il y a des terres où il n'y a plus de vers de terre. C'est pas possible que ça puisse continuer comme ça très longtemps, quoi. Il y a certaines régions, d'ailleurs, en Amérique, qui sont en train d'avoir des rendements qui sont en train de se casser la figure. Certains coins, ils ne peuvent même plus cultiver parce qu'il y a des espèces qui résistent. La nature a la horreur du vin. Si on met des désherbants, des pesticides dans des endroits, il y aura toujours une espèce qui va proliférer, qui va résister. Et c'est ce qui arrive déjà en Amérique, où il y a des endroits où il n'y a plus rien qui pousse à part une espèce qui est complètement, qui stérilise toutes les autres, quoi. Voilà, donc je pense qu'on... De gré ou de force, je pense qu'il faudrait mieux que ce soit de gré avant que ce soit de force. Il faut qu'on passe au bio le plus rapidement possible, quoi. Et alors c'est vrai que les rendements sont droit moindres, mais le pouvoir nourricier est toujours plus important. Donc voilà, il suffit d'une volonté politique là-dessus.
Vous parliez de mésange tout à l'heure, qui est connu aussi pour être le principal prédateur de la pyrale. Quels sont les constats? Et une question que je me pose, j'ai lu un article récemment qui disait que la pyrale est arrivée accidentellement en Alsace en 2010.
Oui, oui. Ben, elle a été introduite par l'homme. Hein.
Et comment ça a pu s'opérer? Par quel biais? Par un transport de marchandises?
Oui,
par...
c'est les échanges mondiaux de marchandises qui font que maintenant les... il y a des produits, le frelon asiatique c'est exactement pareil, il y a des échanges maintenant dans le monde entier, vous le savez bien hein. Donc c'est vrai que ben on n'échange pas que des marchandises mais aussi des espèces qui peuvent venir accidentellement dans des poteries, dans des trucs comme ça, et donc là ça pose un problème parce que la pyrale est arrivée dans un endroit où elle n'avait pas de prédateurs, parce que c'est toujours un problème d'équilibre. Si on n'a pas un équilibre qui se crée, et moi je parle des équilibres naturels, hein, parce que on n'apprend pas, on n'est pas des apprentis sorciers, il faut que la nature se débrouille tout seul. J'ai toujours cet exemple de la colerpa, qui était une algue importée accidentellement aussi par les navires dans la Méditerranée. Elle s'est développée à une vitesse folle en détruisant pratiquement tous les champs de Posidonie, qui est une autre algue de chez nous. Et elle n'avait donc pas de concurrent. Et elle a pu se développer très rapidement. Et les scientifiques ont étudié, ils ne savaient pas trop comment faire, les arracher ou pas. En fait, il y a des endroits où, sans rien faire, elle a commencé à disparaître tout doucement parce qu'il y a eu un concurrent, un virus qui les a attaqués. Donc elle a commencé, elle pratiquement, maintenant, la colerpa de la Méditerranée, il n'y en a pratiquement plus. Et la Posidonie, notre algue bien française, si on peut dire, entre guillemets, méditerranéenne en tout cas, elle a repris du poil de la bête. Je pense que c'est au lieu d'essayer de balancer des produits chimiques sur la pyrale ou sur la processionnaire, parce que la processionnaire aussi c'était un problème, il vaut mieux peut-être attendre que la nature puisse faire son équilibre elle-même. Alors c'est vrai que le buis, ben, il va peut-être disparaître dans certains coins, mais il reviendra sans doute une fois que l'équilibre sera fait avec cette pyrale. Il y a des oiseaux maintenant qui commencent à manger de la pyrale. Au départ, quand ils ne connaissaient pas ce papillon, cette chenille, il y a des problèmes aussi parce que dans le buis, il y a une toxine, le buccine, qui fait que ça peut être toxique aussi pour la mésange. Mais moi, je connais un exemple, en tout cas, où des huppes faciées, c'est une espèce d'oiseau, là, qui nourrit ses jeunes qu'avec des pyrales. Les quatre jeunes sont partis et n'ont été nourris qu'avec ça. Donc, en fait, comme disait un copain... lutter contre la pyrale, adopter une huppe, mais c'est un peu dérisoire parce qu'il y en a tellement maintenant qu'il faut attendre qu'il y a une maladie qui se mette dans cette pyrale, comme la processionnaire fait, hein. Il y a des cycles qui vont se faire, on verra comment ça se passe plus tard, quoi.
Est-ce qu'on peut expliquer le cycle d'une pyrale sur une année, par exemple? Elle est visible à partir de quelle période?
Alors la pyrale a la faculté de se reproduire très rapidement parce qu'elle peut y faire jusqu'à trois générations dans l'année, quoi. Donc trois voire quatre si l'hiver est clément. Donc tant qu'il ne gèle pas, elle peut se reproduire en fait. Donc ça c'est comme ça qu'elle peut avoir. Et les chenilles, elles en pondent, une pyrale peut pondre plusieurs centaines d'œufs. Enfin bon, c'est très très... très prolifique, hein. ces chenilles donc peuvent redeviennent des papillons. Or normalement c'est un papillon nocturne, maintenant on peut en voir même la journée. Moi j'ai un figuier dans mon jardin. Il était couvert de pyrales. Hein. Les adultes ne vont pas que sur du buis. Hein. Ils pondent sur les buis. Les chenilles mangent du buis, mais les adultes peuvent manger autre chose, hein, tout ce qui est sucré, quoi.
Pour le moment, ce n'est que le buis qui soit le principal repas de ces
pour
chenilles.
Pour les chenilles, oui. Je pense pas qu'il ait trouvé autre chose qui lui convienne encore. Mais maintenant, je crois pas qu'il puisse y avoir une adaptation aussi rapide. Mais ça aussi, l'avenir nous le dira, parce qu'on n'est pas trop, on n'est pas encore trop bien au courant de toutes les évolutions qu'il peut y avoir, quoi.
On pourrait revenir brièvement sur le Festival du Vent, hein, donc qui s'est tenu dimanche 21 septembre. Mmh. Ça s'est déroulé où précisément ?
Donc au col de la Bataille même, hein, sur un terrain privé qui nous a été gracieusement prêté par un agriculteur qui est complètement opposé aussi à ce projet. Et on a fait des activités, des promenades, des balades naturalistes toutes les 30 minutes. Il y avait un jeu aussi des silhouettes. Il y avait des stands où on vendait des petites éoliennes pour les enfants. Enfin voilà. Il y a eu des cerfs-volants. Enfin, il y avait plein de petites animations très sympathiques. Ça s'est très bien passé, dans une bonne ambiance, très, très festive. Et le clou du spectacle, c'était, si on peut dire, c'était une hirondelle géante qui a été faite par 300 participants sur les 450 à 500 présents quand même, parce qu'on a fait un décompte assez précis. Et donc on a trouvé que c'était très, très important, que ça a mobilisé du monde et que c'est intéressant de voir que les gens puissent se mobiliser sur ce sujet-là, quoi.
Pourquoi ne voit-on plus de nids sous les génoises d'immeubles ?
Moi, je fais depuis 5-6 ans, je fais... Moi, je ne l'ai pas amené là. Je fais un décompte des nids d'hirondelles sur 10 même. Donc, je peux vous dire exactement l'évolution des nids. Il y en a qui disparaissent à cause des réfections de façade. D'autres qui veulent les détruire parce que ça fait des salissures sur leur pas de porte ou sur la fenêtre. Donc il y a des destructions comme ça faites par l'homme. Mais il y a aussi des destructions qui sont faites par les pigeons, par exemple. Les pigeons, ils vont t'attaquer au nid pour manger les petits qui sont à l'intérieur. Je l'ai vu dans quelques nids sur 10, là.
Les pies aussi.
Mais, ouais. Les pies aussi, oui. C'est...
J'ai vu.
Oui, oui. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que les nids peuvent être détruits, mais ils en reconstruisent. Alors, le problème, c'est que lorsqu'ils construisent un nid, ben, ils perdent une nichée, parce que normalement, ils peuvent faire deux nichées par an. Et là, s'ils reconstruisent des nids, évidemment, ça ne fait qu'une nichée. Et là, j'ai remarqué cette année, par exemple, où il y a eu pas mal de nids de détruits et de reconstruits, il y a eu souvent qu'une seule nichée, quoi. Alors, c'est vrai qu'au nombre de nids, on peut dire, tiens, il y en a eu tant de détruits et tant de reconstruits, mais le nombre de jeunes en l'envol est beaucoup moindre que ce qu'il pourrait y avoir eu, quoi. Moi, il y a un nid qui s'est fait près de chez moi, là, donc j'ai pu le voir. Ils ont même mis 2 ans pour arriver à le faire en entier, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Quand il y a de la sécheresse, il n'y a plus de boue, parce qu'il faut de la terre un peu boueuse et tout ça. Donc, c'est vrai que quand il fait sec et il y a moins de boue, c'est plus difficile à faire un nid, quoi.
Thank you.
Thomas Deana, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes aussi à la LPO. Sur quel secteur précisément ?
Alors, je suis salarié à la LPO depuis déjà une dizaine d'années. Et en fait, je suis chargé d'études, en particulier sur les chiroptères, qu'on a un nom un petit peu scientifique, un petit peu barbare, en fait, qui désigne en fait les chauves-souris, donc des mammifères que j'étudie, et dans le but en fait d'améliorer la connaissance pour une meilleure protection de leur population.
Vous étiez aussi à cette fête du vent sans éoliennes dimanche 21 septembre au col de la Bataille, qui était organisée. Donc, qu'est-ce qu'il en est résulté de cette fête ?
Alors, bah, cet événement, en fait, c'est autour d'un projet d'installation d'éoliennes à proximité immédiate du col de la Bataille. Et donc, en fait, ça a fait qu'un certain nombre de personnes se sont mobilisées pour s'opposer à ce projet, autant des associations que des particuliers. Il y a des associations qui se sont créées comme Sauvons les Oncelles, donc qui sont très riverains du projet. Il y a d'autres associations beaucoup plus importantes, connues depuis longtemps sur le Vercors, comme Miltras, sur la vallée de la Gervanne, comme Lisandra, très portées sur l'éducation à l'environnement, et la LPO, qui sont mobilisées, en compagnie aussi d'une autre association qui s'appelle Vercors Nature, qui est à l'origine de la création du parc naturel régional du Vercors, et puis qui a été rejoint, chose à souligner, par l'association communale des chasseurs de Léoncelles. Et en fait, tout ce collectif s'est formé pour montrer que ce projet était un petit peu une aberration, et tant au niveau de la sauvegarde de la biodiversité que l'impact paysager, et tout un tas de considérations qu'on a développées en détail au cours de cette journée du 23 septembre. Et voilà, c'était un événement qui était pour montrer un peu la mobilisation citoyenne contre ce projet, qui présente beaucoup d'aspects négatifs qu'on a voulu essayer de montrer d'une manière festive, conviviale, avec le plus grand nombre de citoyens possible.
Les éoliennes produisent des dégâts au niveau des oiseaux, principalement, mais aussi des chauves-souris.
Alors oui, en fait, moi je travaille sur les chauves-souris, et dans les missions que j'ai pu réaliser au sein de la LPO, on a fait des inventaires pour en amont de la création de parcs éoliens. On a fait des suivis de mortalité une fois certains parcs créés en exploitation. Et puis bon, on est en échange aussi, parce que la LPO c'est quand même une famille assez large qui couvre une bonne partie des départements français. On a d'autres partenaires aussi, ou d'autres collègues qui travaillent sur le sujet, et on s'est aperçu depuis déjà pas mal de temps, depuis que l'éolien industriel s'est développé, qu'en fait ça pouvait engendrer des cas de mortalité avec des effectifs importants de victimes. Et au début, on se focalisait un petit peu sur les oiseaux, et puis on s'est aperçu que les chauves-souris étaient très régulièrement victimes, et peut-être même dans la plupart des cas, en fait, qui représentaient une majorité des animaux qui étaient tués par les éoliennes. Donc c'est quelque chose qui nous interpelle, d'autant plus que les chauves-souris sont des espèces qui sont fragiles, elles n'ont qu'un seul petit parent. La plupart des espèces ont des populations qui ne sont pas en très bon état de conservation, et la mortalité engendrée par le développement des parcs éoliens industriels représente une menace supplémentaire dont elles n'avaient vraiment pas besoin, quoi.
Est-ce que ça veut dire que les chauves-souris sont présentes sur tous les espaces du territoire, et que, ou alors on pourrait penser naïvement que les chauves-souris sont attirées par les éoliennes, par je ne sais quelle fréquence ou onde ?
Alors il y a plusieurs phénomènes. Alors d'une part, les chauves-souris, malgré qu'on peut affirmer sans souci que c'est des espèces qui ont des populations parfois menacées ou en régression, ou qui sont fragiles, elles sont présentes un petit peu de partout quand même, y compris dans les espaces urbains ou périurbains. Il y a certaines espèces qui sont assez plastiques au niveau de des habitats qu'elles recherchent, et en fait elles peuvent s'adapter même à des milieux, pour peu qu'il y ait encore de la nourriture et des gîtes disponibles, elles peuvent être présentes. Sur les parcs éoliens qui s'installent en général dans des régions assez sauvages, parce que elles doivent être situées à une distance minimum de 500 mètres autour des habitations, par rapport aux nuisances paysagères et sonores, surtout par rapport aux habitants, en fait, elles se trouvent souvent dans les espaces qui sont favorables à la faune globalement, même dans les espaces de culture, d'agriculture intensive, par exemple en plaine. On voit, les éoliennes sont développées dans des grandes plaines agricoles comme la Beauce, la Champagne, ou d'autres. Et on trouve quand même des chauves-souris dans ces habitats, parce qu'il y a tout le temps quelques zones boisées qui subsistent ça et là, et c'est des endroits où il subsiste des insectes et où il y a des prédateurs comme des chauves-souris. Donc voilà, les éoliennes et confrontées aux chauves-souris, c'est quelque chose qui est largement répandu. Il n'y a pas d'éolienne qui est installée aujourd'hui où il n'y a pas un risque que des chauves-souris se promènent ou en tout cas passent à proximité immédiate. Et ensuite, la mortalité, elle est engendrée par d'autres. Il y a des phénomènes qui expliquent la mortalité, c'est-à-dire que les chauves-souris sont des mammifères qui sont relativement curieux, qui peuvent voler très très haut en altitude, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, et qui explorent régulièrement tout leur environnement, à la recherche de gîtes, à la recherche de proies, qui sont extrêmement mobiles. Hein. Les chauves-souris, ça vole très bien, et ça peut faire de longues distances, et inspecter toutes les lisières qu'elles rencontrent, faire le tour des bâtiments pour voir s'il n'y a pas un petit endroit où elles vont pouvoir se reposer en journée, derrière des fossés. Et en fait, une grande structure verticale comme une éolienne, c'est quelque chose, quand elles le croisent, très très souvent, pas toujours, mais très très souvent, elles vont en faire le tour, elles vont monter le long du mât, aller explorer la nacelle, passer près des pales, et être victime soit d'une collision, soit du souffle de la pale, qui engendre une espèce de phénomène de surpression, qui va chez aussi les petits passereaux, hein, mais d'abord chez les chauves-souris, très souvent, engendrer ce qu'on appelle un barotraumatisme, c'est-à-dire une hémorragie interne généralisée au niveau de certains de leurs organes qui leur permettent d'être plus légères en vol, donc ce qu'on appelle des sacs aériens, enfin des organes spécifiques aux animaux qui volent, mammifères ou oiseaux. Et en fait, voilà, le souffle de la pale, c'est comme le souffle d'une explosion, en fait, ça engendre un barotraumatisme et ça tue ces animaux, même à un mètre de distance du passage de la pale. Voilà, c'est quelque chose d'assez radical, et malheureusement, les chauves-souris, c'est ce qui explique le fait qu'elles sont surreprésentées dans les victimes des parcs éoliens, c'est qu'elles sont curieuses à la fois, elles peuvent aller voir les éoliennes. Alors, les oiseaux, en général, essayent d'éviter les éoliennes, et d'une part, les chauves-souris vont voir à côté, et ensuite, même sans toucher, elles sont victimes de ce phénomène particulier du barotraumatisme.
Gilbert David.
Oui, bonjour Thomas.
Bonjour.
On se dit aussi qu'il y a une certaine fréquence dans les pales qui font que ça attire aussi les chauves-souris. Est-ce que c'est vrai?
Ça, on ne sait pas exactement. On pense que les ultrasons ou les infrasons, parce qu'il y a deux types de bruits, je dirais, qui sont produits par les éoliennes, peuvent avoir plutôt un effet qui brouille les émissions sonores des chauves-souris. Et il y a des théories, mais qui n'ont pas encore été vraiment validées scientifiquement, qui évoquent plutôt un côté répulsif, ou soit un brouillage du sonar des chauves-souris, donc qui les désorienterait, et qui ferait que ça approcherait peut-être un peu plus qu'il ne faudrait, un peu perturbé dans leur système d'écolocation. Et aussi un effet répulsif qui ferait qu'elles éviteraient les abords des éoliennes. Et ça, c'est un peu démenti par les faits, et le fait qu'on trouve des victimes, enfin des chauves-souris qui sont tuées par les éoliennes, il y a un côté de toute façon d'attirance qui est bien plus fort que les perturbations liées à des effets sonores ou acoustiques produites par le mouvement des pales. Mais c'est vrai que c'est des choses où on s'est interrogé, notamment sur le côté brouillage, brouillage sonore, brouillage de leur sonar, et que ça les rende encore un peu plus perturbées et sensibles. Elles verraient pas les éoliennes, ou en tout cas, elles n'auraient pas une perception assez précise pour éviter la collision ou le barotraumatisme.
Il y a un travail qui existe au CNRS à Paris sur la communication acoustique animale. Est-ce que vous en avez entendu parler? Et je voulais savoir, par exemple, Thierry Aubin, qui en est un des professeurs et un des chercheurs de cette institution, travaille justement sur la communication avec les oiseaux. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avertir, par exemple, la faune de ces proximités d'éoliennes?
Je connais malheureusement pas les travaux du chercheur que vous évoquez. C'est vrai qu'en termes de communication, il y a énormément de choses à découvrir encore, je pense. Les animaux ont un langage spécifique qui nous échappe en grande partie, même si on, on a déjà quelques clés par rapport à des comportements, par rapport à des phénomènes de communication d'ordre territorial ou enfin voilà, dans pas mal de domaines, on arrive à comprendre un peu ce que se disent les animaux, même si ça reste assez superficiel probablement. Mais un système d'effarouchement, par exemple, où on reproduirait des cris de détresse d'un oiseau ou d'une chauve-souris, c'est quelque chose qu'on préfère éviter. Enfin, je pense qu'il faut se méfier de ce genre de mesures, parce que déjà, d'une part, il faut bien se rendre compte que l'éolien, tel qu'on conçoit aujourd'hui une politique de développement des énergies renouvelables, ça veut dire que demain, si on veut vraiment partir dans une transition énergétique, comme on en parle assez de manière répétitive, ça va être le développement de dizaines, voire de centaines de parcs, et donc de milliers, voire de dizaines de milliers d'éoliennes qui vont être implantées sur le territoire. Ça représente des hectares et des hectares qui vont être directement ou indirectement impactés par la présence de parcs éoliens. Et mettre en place des systèmes d'effarouchement qui vont porter sur des centaines de mètres autour de chaque éolienne, qui seront demain des dizaines, enfin, honnêtement, je vais vous dire, je l'espère pas, mais des dizaines de milliers d'éoliennes sur tout le territoire français et européen, hein, parce que c'est quelque chose qui est déjà développé en Allemagne et en Espagne, mais en France, on semble vouloir, en tout cas, il y a une volonté politique d'aller à peu près dans la même direction. Donc implanter des dizaines, voire des centaines de milliers de machines, si on met des dispositifs d'effarouchement, c'est-à-dire qu'en fait, en France, les chauves-souris n'ont plus leur place, quoi. Il faut le dire carrément tout de suite, quoi. Si on les effarouche pour pas qu'elles aillent se faire tuer directement, elles n'ont plus vraiment d'espace sur lequel leurs populations pourront s'épanouir et jouer leur rôle d'équilibre au niveau des écosystèmes.
Oui,
c'est-à-dire manger chaque nuit des milliers et des milliers d'insectes.
Oui, ça fera des déserts
exactement.
De nature.
Là, on va stériliser, je dirais, en termes de biodiversité, et d'une biodiversité qui nous est indispensable, nous être humains. Si on dit, bah, plutôt que les oiseaux et les chauves-souris se fassent tuer par des éoliennes, on va les effaroucher pour pas qu'elles s'en approchent. Demain, le territoire, disons qu'un tiers du territoire utile en termes de campagne, de nature plus ou moins sauvage, est occupé par des éoliennes, et qu'on effarouche de manière à ce qu'il n'y ait pas de mortalité directe. Il va y avoir un effet indirect qui, au final, sera le même résultat. C'est-à-dire que le territoire va être vidé de ses populations d'espèces sensibles aux éoliennes, parce qu'on les aura effarouchées. Et donc, voilà, c'est répondre... c'est pas franchement une solution à laquelle on est vraiment partant.
Et après, le
système d'effarouchement, souvent, a un effet qui peut être que temporaire.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui,
voilà, par s'accoutumer.
Les tonnes forts, comme ils disent, quand on fait des pétards répétitifs, au bout d'un moment, les animaux s'y habituent et puis ne sont plus sensibles à ces effarouchements-là. Mmh. Donc, ce serait le risque aussi, c'est que de perturber aussi leur lien entre eux. Et voilà, je pense que ce serait reculer pour mieux sauter, quoi.
Voilà, moi je voyais bien au-delà, hein. Je parlais de communication et pas d'effarouchement. La chauve-souris est-elle un prédateur de la pyrale?
Alors c'est une question qu'on nous pose très souvent, parce que c'est vrai que la pyrale, c'est un phénomène qui est tellement spectaculaire et dramatique, hein, j'entends bien, au niveau de nos paysages, au niveau des habitats naturels où le buis joue un rôle extrêmement important. La chauve-souris, oui, c'est un prédateur, hein. Il y a énormément de... Enfin, sur les 30 espèces de chauve-souris qu'on trouve dans le département de la Drôme, il y en a un bon tiers qui consomme régulièrement des papillons. Toutes les chauves-souris sont des mammifères volants insectivores sous nos latitudes, et il y a au moins un tiers des espèces qu'on connaît par ici qui consomment très régulièrement des papillons, et il y a 3 ou 4 espèces qui sont vraiment des spécialistes des papillons, c'est-à-dire elles consomment à 90%, c'est des lépidoptères, autrement dit des papillons nocturnes. Et on observe très régulièrement dans les grosses émergences qui font tant parler d'elles, hein, de pyrales du buis, ces espèces de nuages qui ressemblent à des averses de neige absolument dingues, hein. C'est quelque chose de visuellement très 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 fort. On voit des chauves-souris qui piquent là-dedans, qui virevoltent et puis qui en consomment, enfin qui attrapent des pyrales tout ce qu'elles peuvent. Donc les chauves-souris, en fait, sont surtout celles qui étaient déjà spécialisées sur les lépidoptères, sont des grandes consommatrices de buis. Par contre, comme tout prédateur naturel, en fait, ne va pas avoir forcément un effet d'éradication d'une population de proies, même si c'est une proie qui est occasionnelle, si c'est une proie qui est particulièrement intéressante, elles vont pas les décimer ou les faire disparaître, malheureusement. Par contre, par une consommation répétée, et la pyrale fait bien maintenant partie de leur régime alimentaire, hein, c'est elles vont, je dirais, limiter les dégâts. Et ça, c'est le cas pour la plupart des espèces prédatrices ou tout ça. Elles ont un effet qui est de décréter ou de réguler les populations de proies, avec des fois des aspects, on y voit régulièrement, comme dans le cas de la pyrale, des effets extrêmement positifs pour nous, parce que la pyrale, ça nous fait quelque chose d'insupportable très très souvent, et avec des effets sur le buis par exemple. Mais malheureusement, les chauves-souris vont pas entraîner la disparition. Elles vont pas régler le problème qu'on a créé de toute pièce, c'est-à-dire en important des buis d'Asie dans lesquels étaient contenus des œufs ou des larves de pyrale du buis.
Vous pouvez indiquer une page internet où on peut trouver des informations sur justement la fête du vent et puis le combat contre les éoliennes, par exemple.
Tout à fait. Alors, il y a des informations qui sont disponibles sur le site de la LPOdrome. Vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, LPO26 ou LPOdrome, vous allez être dirigé sur ce site. Et dans les rubriques, il y a tout un tas de rubriques dans lesquelles vous allez assez rapidement trouver des informations relatives à l'événement. Il y a un dossier spécial éolien. Ensuite, il y a, en fait, la LPO, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, fait partie d'un collectif qui regroupe plusieurs associations, ainsi que des professionnels du tourisme orientés sur la découverte de la nature, de l'éducation à l'environnement. Et donc, il y a un collectif qui s'appelle le collectif de sauvegarde du col de la Bataille, donc qui a aussi sa page internet. Il y a aussi d'autres associations, dans les associations, il y a Lysandra, Miltras, Sauvons les Oncelles, qui reprennent aussi à peu près les mêmes informations, mais en le déclinant avec leur propre sensibilité. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre collectif. Et puis après, il y a des articles qui sont parus, on a envoyé des communiqués de presse, mais sur les sites que je viens de vous citer, vous allez retrouver l'essentiel de des informations relatives à la fête du vent, au projet éolien et à tout ce qui tourne un petit peu autour de ça.
Eh bien, l'émission se terminant, je vous remercie en tout cas Thomas Deana de nous avoir donné un peu de votre temps, et puis aussi à Gilbert David d'être venu au studio pour cette émission. Et je vous souhaite tous les deux une bonne soirée.
Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. Salut. Au revoir.
Salut Thomas.
Salut Gilbert.
Interview.
Okay, the bird.